Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Pascal Masri Kabissimo à la présentation.
Les titres de l'actualité, fluctuation du franc congolais sous les marchés à Goma, au Nord Kivu. Un dollar américain s'échange actuellement à 2210 francs congolais chez les changeurs. Les marchands qui s'en plaignent demandent au gouvernement central de stabiliser le taux d'échange pour donner la valeur à la monnaie nationale. Panne technique à la morgue de l'hôpital général de Bandundu. Nous sommes dans le Kwilu. Conséquence, les dépôts mortels pourrissent depuis plusieurs jours. Les jeunes leaders membres de la société civile fustigent l'indifférence des autorités locales. Notre invité, c'est le directeur provincial de la Régie des Eaux Kinshasa. Remo Matundu parle de la fin des travaux de construction de la nouvelle usine de traitement d'eau potable de Bizaozone dans la commune de Ngaliema. Et cela pour alimenter l'ouest de la ville et réduire le déficit qui a prévalu. Madame, messieurs, bonsoir. Ouvrons par un mot d'économie. Au Nord Kivu, il s'observe depuis le début de la semaine une fluctuation du franc congolais sur le marché à Goma. Un dollar américain s'échange actuellement chez les changeurs, les cambistes, communément appelés, 2210 francs congolais. Les marchands qui s'en plaignent demandent au gouvernement congolais de stabiliser le taux d'échange pour donner la valeur à la monnaie nationale. On écoute ce cri d'alarme de l'une des marchandes au marché des Biréré. Madame Raïssa Kibwana est au micro de Denise Lokesso.
Vraiment, nous les commerçants de Biréré, nous souffrons beaucoup à cause du franc. Donc les francs varient minute par minute, seconde par seconde. On se demande, nous les commerçants, si nous sommes dans quoi au juste. Parce que tu te rends compte que tu peux prendre le franc de 2050. Quand tu vas chez les cambistes, on te dit le franc c'est à 2200 ou 2200 et plus comme ça. Mais non, on se demande si nous sommes dans quoi. Parce que nous les commerçants, nous vendons pour le moment par perte. Tu te rends compte que tu vas quelque chose à 2250 quand tu pars chez les cambistes, on était à 2200. Et pourtant, le franc congolais, c'est notre monnaie. Nous devons donner le franc congolais sa valeur. Mais pour le moment, le franc congolais n'a plus de valeur. Parce que même nous, les commerçants, on a aussi peur de prendre les francs congolais. C'est nous qui perdons, nous, les commerçants de Biréré. Vraiment, nous plairons à notre gouvernement de stabiliser les taux. Parce que c'est comme s'il y a aussi une guerre des taux. On ne sait pas si nous sommes dans quoi. Nous devons donner la valeur à notre monnaie, le franc congolais.
Non loin de là, au sud Kivu, pendant ces temps, le prix du carburant a pris de l'ascenseur dans le territoire de Shabunda. Cette situation affecte déjà le secteur économique de la zone. La société civile demande aux autorités de trouver une solution à ce problème. C'est ce que nous raconte à Bukavu Jean-Baptiste Ntonga.
Des sources locales et celles de la société civile renseignent que le prix du litre d'essence se négocie entre 6 et 7 000 francs congolais à Shabunda Centre. Plus loin dans le même territoire, à Lulingu, le litre d'essence coûte 20 000 francs congolais, soit 10 dollars américains. Cette situation influe déjà sur le prix de la course à moto entre Lulingu et Chonka, une distance de 8 km qui se négocie à 10 000 francs congolais. Nos sources ajoutent que cette montée vertigineuse du prix du carburant perturbe les échanges économiques et il y a risque que le prix des produits de première nécessité puisse prendre réellement de l'ascenseur. La société civile locale explique cette montée des prix par l'absence de routes dont la plupart sont dans un état de délabrement avancé, ce qui rend le territoire complètement clavé. L'approvisionnement en carburant se fait par moto et vélo à partir de la province voisine du Maniema. Une autre cause de cette montée du prix du carburant serait, selon nos sources, le refus des compagnies d'aviation de transporter du carburant de Bukavu à Shabunda, d'où cet appel de la société civile aux autorités nationales et provinciales de songer à relier Shabunda à Bukavu par route, ne serait-ce qu'une route en terre battue. Bukavu, Jean-Baptiste Ntonga, Radio Kapi.
Et puis au Maniema, le mauvais état des routes est à la base de la hausse du prix du ciment dans la ville de Kindu. Un sac de ciment se négocie actuellement à 50 dollars américains. En cause, selon certains fournisseurs, l'enclavement et l'impraticabilité des routes de cette province. Les constructeurs haussent quant à eux le ton car leur maison reste inachevée. Ils se disent abandonnés par les autorités. À Kindu, la correspondance de Florence Kizalunga.
Construire à Kindu ces derniers temps devient un casse-tête. C'est depuis 2 mois que le prix des ciments a doublé. Désemparés, certains constructeurs se disent obligés d'abandonner leur chantier.
Il n'y a pas 2 mois, on achetait un sac de ciment à 20-25 dollars. Mais aujourd'hui, un sac de ciment coûte 50 dollars. Il y a des chantiers qui sont en cours, que nous sommes en train de construire pendant cette saison de pluie. Mais chose déplorable, regrettable, les autorités ne disent rien à ce sujet. Acheter un sac de ciment avec cette vie de Kindu à 50 dollars, mais c'est compliqué. Il y aura des maisons qui vont s'écrouler parce que nous sommes dans la saison des pluies. Nous sommes vraiment désolés, abandonnés, délaissés, ne sachant plus à quel sens se vouer.
Les fournisseurs de leur côté évoquent le problème de route. Justin Kabassel Kadjamba.
Aujourd'hui, les sacs de ciment coûtent à 50 dollars. C'est par rapport des routes. Les routes qui compliquent. Les ciments que nous avons ici à Maniema, il y a des routes. Il y a les ciments de Kisangani et les ciments aussi de Kalemé. Vous pouvez aller à Kalemé acheter les ciments. Par exemple, au mois de janvier, comme on est janvier aujourd'hui, vous allez retirer au mois de décembre que les autorités puissent arranger les routes, voire même les chemins de fer.
L'unique espoir pour la population reste le programme de développement des 145 territoires, mais qui traîne encore les pas, se plaignent, se comme commerçant. Kindu, Florence Kizalunga, Radio Kapi.
Allons maintenant en Ituri où plus de 75 000 déplacés qui ont fui les récentes atrocités des groupes armés sont concentrés actuellement sur les sites de Ro dans le territoire de Djougou. Selon des sources concordantes, ils ne peuvent pas sortir pour aller chercher des vivres à cause de la présence des miliciens de la Codeco qui ont assiégé la zone. Deux déplacés qui se rendaient au champ ont été tués mardi après-midi. Ces personnes qui manquent de tout n'ont même pas accès aux soins médicaux. À Bounia, Isaac Remoyope.
Les sites des déplacés d'Héro abritaient environ 35 000 personnes avant l'attaque des dimanches des localités de Drodro, Djissa, Bloukwa et Largou par les miliciens de la Codeco. Les habitants de ces entités ont trouvé refuge dans ces sites qui comptent désormais environ 75 000 personnes, dont des malades de l'hôpital de Drodro qui ont été évacués par des casques blés de la MONUSCO. D'autres villages proches des zones de combat, notamment Logo et Tse, sont également vidés de leurs occupants. Tous ces déplacés vivent dans des conditions difficiles, pas des vivres ni des médicaments, encore moins des matériels essentiels comme des nattes et des couvertures. Ces déplacés ne sont pas libres de leur mouvement à cause de la présence des miliciens de la Codeco qui ont tué mardi 2 hommes qui voulaient se ravitailler en vivres au village de Lera. Le président des jeunes du site d'Héro lance une alerte au gouvernement et aux humanitaires.
Nous demandons l'assistance urgente puisqu'il n'y a pas moyen vraiment. Ou plus, il n'a fait de pas aussi dans le village environnant.
Certaines ONG internationales, dont MEDER et Médecins sans frontières, assurent les soins d'urgence de certains déplacés sur les sites d'Héro où FRDC et Casque Blé ont renforcé leur position. Bounia Isakre Moyope, Radio Okapi.
Affrontement hier à Mourimbi et à Moudougoudougou entre les rebelles du M23 et des miliciens du mouvement pour les changements dans les groupements de Tongo, chefferie de Bouito au nord Kivu. Les sources locales affirment que ces attaques sporadiques sont orientées vers les positions des rebelles du M23 depuis l'occupation des villages de Mourimbi, Roussekera, Chogny et Moudougoudougou. Explication d'Innocent Fazili.
Ces combats à l'arme lourde ont commencé aux environs des 11h et ce n'est qu'à 13h locales que les armes se sont tues à Mirimbi où les combattants de la milice et du collectif des mouvements pour le changement CMC sont allés attaquer l'une des positions du M23 dans ce secteur. Quelques heures après, les mêmes combattants sont allés également attaquer la position des rebelles à Moudougoudougou, le village de Kavumu, dans la localité de Bouchili, toujours dans le groupement des Tongo. Les témoignages concordants précisent que ces combats sporadiques surviennent souvent lorsque les rebelles tentent de contourner les positions tenues par ces combattants pour couper la route Kitianga Goma, la seule voie qui relie aujourd'hui Goma à la partie nord de la province. Toujours sur le front nord, plusieurs sources à Kiwanja affirment l'arrivée hier mercredi des renforts du M23 à Kinyandoni dans le groupement des Bukoma et à Kiseguru, voisin, dans le groupement des Binza. Ils ont détruit hier toutes les récoltes de la population trouvées dans leur champ. Ils les soupçonnent de collaborer avec les combattants des FDLR actifs dans cette zone. Dans le front sud, la société civile de Nyiragongo a constaté dans la nuit d'hier mercredi des colonnes des hommes armés vêtus en uniforme de l'armée rwandaise. Ces derniers ont traversé en RDC par le groupement des Buhumba et se sont dirigés dans la direction du parc national de Virunga.
santé à présent. Dans la province du Kwilu, les corps gardés à la morgue de l'hôpital général de Bandundu pourrissent suite à une panne depuis quelques jours. Ce sont des jeunes leaders du Kwilu qui tirent la sonnette d'alarme. C'est confiant à Radio Kapi, cette structure de la société civile déplore l'indifférence des autorités locales face à cette situation. En revanche, la mairie assure que des moyens sont en train d'être réunis pour dépanner cette morgue. À Bandunduville, la correspondance d'Irène Moma.
D'après la communauté des jeunes leaders du Kwilu, CGL en sigle, c'est depuis la deuxième quinzaine du mois de décembre dernier que la morgue de l'hôpital général de référence de Bandundu ne fonctionne plus. Des cadavres y pourrissent et les habitants environnants ne savent plus bien respirer à cause des odeurs nauséabondes insupportables qu'ils ressentent. Jean-Prince Mbouyi, chargé de communication de ces mouvements citoyens, lance un SOS auprès de la mairie de Bandundu afin de trouver solution à cette situation.
Il y a risque de susciter une épidémie dans la ville. Considérant cette calamité qui dérange la population, la communauté des jeunes leaders demande au maire de la ville de Bandundu de mettre tous les moyens possibles pour le rétablissement de ces dernières. Il est déplorable qu'une ville comme celle-ci, les corps soient enterrés si vite comme au 15e siècle.
Contacté à ce sujet, le maire sortant de la ville de Bandundu, Ephraim Kinda, explique ce qui suit.
Nous avons eu un mauvais courant, ça a bousillé les compresseurs, ce qui a fait que nous avons connu des problèmes. Que la population soit calme, nous allons réhabiliter la morgue. Nous sommes en train de nous débattre pour acheter de nouvelles pièces qui nous coûtent extrêmement cher.
En attendant, Ephraim Kinda invite la population à faire usage du formol pour conserver les corps sans vie à la morgue. Irène Boma, Bandunduville, Radio Okapi.
Et puis au Congo central, l'hôpital général de référence de Kiangvu n'a ni salle d'urgence, ni bloc de soins intensif. Conséquence, hommes, femmes et enfants, y compris des malades agonisants, se partagent quotidiennement les mêmes locaux dans une forte promiscuité. Constat fait par le président de l'Assemblée provinciale lors d'une visite sur le terrain. Jean-Claude Mvuemba Luzamba promet d'en parler au gouverneur de province. Pour en parler, retrouvons Amatadi Nana Plurichmambou.
La promiscuité, c'est ce qu'on remarque tout de suite en arrivant à l'hôpital général de référence de Kiangvu. Installée dans la zone de santé de Nzanza, cette formation médicale reçoit des patients de toutes les trois communes de Matadi, alors qu'elle ne dispose que de 80 lits. Hormis cet aspect, cette structure sanitaire fait aussi face à de nombreuses difficultés, comme l'affirme le médecin chef des zones de santé de Nzanza, Dr Ferdinand Ango, devant les présidents de l'Assemblée provinciale du Congo central.
L'hôpital n'est pas clôturé, victime même de vols et de plusieurs biens de l'hôpital, aussi des évasions de malades, pas des soins intensifs. Par la salle d'urgence, avec 80 lits.
Une réalité que Jean-Claude Mvuemba a vécue au cours de sa visite et qu'il trouve inadmissible. Il promet l'implication de l'Assemblée provinciale.
Dans cette promiscuité, c'est difficile. On se pose des questions. Comment nos concitoyens sont-ils accueillis par ici? Nous allons tout faire, l'Assemblée, et d'ailleurs je le regrette que je ne suis pas venu avant le budget, parce que je l'aurais inscrit au budget. Mais comme certainement il y aura un budget rectificatif, c'est à ce moment-là que nous devons aider l'hôpital général de Kiangvu.
Les préoccupations liées au manque de locaux pour la zone de santé de Nzanza et à la pléthore du personnel dans cet hôpital ont aussi été soumises au président de l'Assemblée provinciale du Congo central. Matadi, Nana Plurich Mambou, Radio Okapi.
Retour sur l'effondrement d'un pont sur la rivière Louvois dans le secteur de Bapende, province du Kasaï. Les passagers qui étaient à bord sont portés disparus, sauf le convoyeur qui s'est sauvé. Selon des sources locales, la destruction de ce pont risque de créer une pénurie de produits agricoles dans la ville de Chikapa. À Kananga, c'est une correspondance de François Kadima.
Le pont qui s'est effondré situé à une quarantaine de kilomètres de Chikapa, chef-lieu de la province du Kasaï. Cette voie est une route de dessert agricole. Elle relie la ville au secteur de Bapende et mène également jusqu'en Angola. Des sources locales rapportent que différents produits des champs proviennent de ce côté pour approvisionner le centre de la province du Kasaï, surtout pendant cette période de récolte. Avec l'effondrement de ces ponts, la voie est coupée et il y a risque d'une pénurie à Chikapa. Cela peut occasionner la hausse de prix, surtout qu'environ 30% des produits alimentaires proviennent du secteur de Bapende, expliquent les mêmes sources. Pour les habitants de la ville de Chikapa, les autorités doivent prendre cette situation à cœur et remettre rapidement un autre pont sur la voie pour faciliter les passages. Cette situation ne touche pas seulement le secteur de Bapende, mais aussi celui de l'Ovalu-Chikou. À la période de cueillette de chenilles, appelée communément Masamba, les consommateurs s'approvisionnent à partir de ce coin, indique la population. Entre-temps, les autorités au niveau de la province indiquent s'activer pour retrouver les personnes disparues lors de l'effondrement du pont. De Kananga, François Kadima, Radio Kapi.
Actualité internationale.
Au Mali, on en sait un peu plus sur la double attaque djihadiste survenue mardi après-midi contre les forces armées dans le centre du pays. Le nouveau bilan qui a été dressé par les officiels fait état de 14 militaires maliens qui ont perdu la vie et 31 terroristes neutralisés. Côté armée régulière, c'est l'un des bilans les plus lourds depuis plusieurs mois. Au Bénin, pendant ces temps, dénonçant des fraudes massives, le principal parti d'opposition béninois a rejeté en bloc ce jeudi matin les résultats provisoires des élections qui ont été organisées dans le pays, des élections qui donnent la victoire au camp du président Patrice Talon. Selon ces résultats publiés la veille par la Commission électorale nationale autonome Sénat, la mouvance présidentielle a remporté à l'occasion 81 des 109 sièges au Parlement contre 28 au principal parti d'opposition. Les démocrates, les résultats définitifs sont attendus demain vendredi matin. Et puis un tribunal russe a condamné hier après-midi un militaire contractuel à 5 ans de prison ferme pour avoir refusé d'aller combattre en Ukraine, a-t-on appris officiellement ce jeudi de sources judiciaires. Le procès a eu lieu au tribunal militaire d'Oufa.
L'invité.
Notre invité, c'est le directeur provincial de la Régie des Eaux Kinshasa, Raymond Matundu, parlait de la fin des travaux de construction de la nouvelle usine de traitement d'eau potable de Binzaozone dans la commune de Ngaliema pour alimenter l'ouest de la ville et réduire le déficit qui a prévalu. Il s'entretient avec Priscille Kabuya.
Monsieur Raymond Matundu, bonjour.
Bonjour, madame.
Quel est l'état d'avancement de travaux de l'usine de Binzaozone?
Merci pour la question. Nous pouvons vous dire aujourd'hui le module 1, la nouvelle usine de l'ozone, le module 1 qui est de 110 000 mètres cubes par jour. Aujourd'hui, nous sommes pendant la période de test. Donc, nous pouvons dire à ce stade que la première phase est presque terminée. Nous sommes presque au dernier réglage où on est en train de faire les essais chaque jour pour voir le comportement, comment l'usine fonctionne déjà et comment les réseaux se comportent par rapport à ces nouveaux flux. Alors, nous pouvons dire à ce stade que la première phase est presque terminée. Chaque jour, nous fonctionnons de 8 heures à 18 heures, du moins la semaine jusque vers le 15, et le 16, on va maintenant fonctionner 24 heures sur 24 heures pour voir comment l'ouvrage se comporte et comment les réseaux aussi fonctionnent par rapport à ces nouveaux flux que l'usine de l'ozone envoie. Donc, à ce stade, l'usine fonctionne déjà très, très bien.
L'usine est appelée à servir combien d'habitants?
Bon, si je peux dire en termes des zones, l'usine va desservir plus la partie ouest de la ville. Mais il y aura de la ville, quand je parle de la partie ouest, je vois Ngaliema, je vois Ozone, je vois ma campagne, je vois Montfleury, je vois Météo, je vois l'IPEN, je vois aussi une partie de la cité verte. Donc, cette usine va desservir toute cette partie-là, même Malweka, vers Moudi. Il y aura aussi l'influence de cette usine-là. Et il y aura aussi une partie, donc la zone d'influence va se manifester même jusqu'au niveau de Kitambo, même Bandal. Parce que l'eau qui venait de l'usine de Ngaliema, qui transitait par Kitambo pour aller jusque dans la partie ouest, cette eau-là ne va plus aller là-bas. Donc, ça va améliorer sensiblement la desserte aussi dans la partie centre de la ville. C'est-à-dire, quand je dis partie centre, je vois ma campagne, entre ma campagne, je vois Centre Nganda, je vois Bandal aussi, même Diengue aussi. Donc, il y aura vraiment une grande influence dans toutes ces parties-là.
Monsieur Raymond, quand est-ce que la population pourra réellement bénéficier de cette eau?
Donc, normalement, si tout va bien, l'inauguration aura lieu ce mois ici, au mois de janvier ici. Je crois dans les jours qui viennent, on va vous dire officiellement la date de l'inauguration. Mais l'usine est déjà, ça fonctionne déjà. Donc, au mois de janvier ici, on va vous communiquer la date. Donc, ce n'est plus pour longtemps. C'est juste question de jours. C'est pourquoi, comme je vous ai dit au début là, nous sommes en train de faire déjà les essais de fonctionnement, voir comment les machines fonctionnent, comment les ouvrages de traitement se comportent, et ainsi de suite. Nous avons commencé d'abord par de 8h à 18h chaque jour. La semaine prochaine, nous allons maintenant passer 24h sur 24h. Et à l'issue de ça, je crois qu'on va vous dire quand est-ce que l'usine sera inaugurée. Mais tout ce que je sais, ça sera ce mois ici, le mois de janvier.
Merci, monsieur Raymond.
Merci, madame.
C'était l'invité de Radio Okapi, le directeur provincial de la régie des eaux Kinshasa, Raymond Matundu, était interviewé par Priscille Kabouya. Et c'est la fin de cette édition d'information. Merci d'avoir écouté infiniment. Merci à Alain Rongmouchige qui m'a accompagné. Jeannot Matouaki Mofelele reprend l'antenne.